Sutor ne supra crepidam. Je répète pour ceux qui n'auraient pas compris. Sutor ne supra crepidam. Certains disent amen, ils ont la foi. Je n'ai pas assez bien articulé, c'est ça? Mais je ne suis pas tout à fait sûr si c'est crepidam ou crepidum. Mais en tout cas, c'est sutor ne supra. Est-ce que quelqu'un sait ce que cette locution latine magnifique veut dire? Est-ce que quelqu'un sait?
Le suprême créateur?
Pardon?
Le suprême créateur, non?
Mais en français?
Bon,
quelqu'un a dit non? Tu? Il y a quelque chose d'au-dessus, ouais. Supra, c'est au-dessus, ça vous avez peut-être compris. Hein. Tout supra, c'est supérieur. Sutor, c'est le cordonnier. Ça doit venir de suture, qui fait les coutures. Vous voyez, on arrive. Hein. Oh là là. Et puis, crepidam, c'est la chaussure, le soulier, la sandale. Donc, ne supra, c'est pas au-dessus. Qu'est-ce que ça voudrait peut-être dire? Hein, ça fait une version intéressante. La chaussure n'est pas au-dessus du cordonnier. Comme l'arbre n'est pas au-dessus de l'homme, c'est ça, ou que l'animal n'est pas au-dessus de l'homme. Non, c'est pas ça. Pardon? Alors, oui, personne n'est plus mal chaussé qu'un cordonnier. Ça, c'est une autre sentence, mais c'est pas ça. Au-dessus, chaussure, cordonnier. C'est presque... Urbain, il a presque dit ça, mais c'est faux, c'est autre chose. C'est pas... C'est quelqu'un qui a répondu à un cordonnier qui faisait une... Vas-y.
Oh non, c'est pas Jean-Baptiste qui a répondu
par Jésus. Non, non, non. Mais ça pourrait être. Il y a aussi une question d'au-dessus, d'au-dessous. Ah, mais je suis pas digne de détacher ta chaussure. Oui, d'accord. Non, c'est quelqu'un dans l'Antiquité... qu'a répondu à un cordonnier qui était très doué, réputé pour son excellence dans son façonnage, sa fabrication des chaussures. Et il s'est mis à avoir toute une thèse et toute une théorie au vu de son aura de compétence comme excellent cordonnier, ça lui donnait un aura. Et il s'est mis à disserter et donner un conseil à des gens sur tout un tas d'autres choses sur lesquelles il n'était pas compétent, mais il avait l'autorité puisqu'il était très réputé. Et quelqu'un lui a répondu avec beaucoup de sagesse, « Cordonnier, pas au-dessus de ta chaussure. » Vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, pas au-dessus de votre domaine de compétence. Vous pouvez être excellent dans un domaine, ça ne vous donne pas un aura, une autorité pour savoir tout sur tout, comme on croit parfois quand on a une certaine autorité ou une certaine prestance dans un domaine. C'est donc l'introduction, vous l'avez compris, de mon troisième et dernier volet de
l'arrogant.
Merci, il y en a un qui écoute depuis quelques dimanches où je prêche. Merci Daniel d'avoir sauvé l'assemblée. Donc c'est le troisième et dernier volet sur l'arrogance. Et je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, je ne vais pas faire le point 1 et le point 2, mais juste rappeler le style de prédication que c'est pour que vous ne soyez pas frustrés. Ce n'est pas une prédication point 1, point 2, point 3. Ce n'est ni une prédication avec un texte biblique que j'aime développer et tout ça, c'est vraiment un thème et plutôt un sujet prophétique où j'aimerais que vous puissiez capter au travers de beaucoup de petites citations bibliques sur l'arrogance, beaucoup de pensées comme Sylvain a prié que je sois conduit à couper ou à rajouter, on va se laisser un peu conduire par l'esprit pour ce troisième volet, pour conclure sur ce thème de l'arrogance, parce que nous sommes, c'est le premier point de cette troisième partie qui va être conclusive, c'est que nous sommes tous concernés par l'arrogance. Ce n'est pas les extravertis, ce n'est pas les intelligents seulement, ce n'est pas en plus les pauvres, les ados peuvent être très concernés par ce thème, les vieillards peuvent être très concernés par ce thème, les blonds aussi. Vous remarquez, je n'ai pas dit les blondes. Hein. Ceux qui sont au fond, comme ceux qui sont au premier rang, peuvent être concernés. On est tous concernés. Il y a des caractères qu'on sent arrogants, qu'ils sont peut-être moins que d'autres gens qui disent jamais rien et qui ont une force de silence, de regard, dans certaines circonstances. Pas de coup de coude. Pas de coup de coude. Vous voyez, hein, par un simple regard, qu'est-ce qu'on peut être hautain et arrogant? Donc, c'est important de savoir qu'on est tous guettés par cet esprit démoniaque. Je n'employe pas souvent ce terme, vous connaissez ma mesure, mon équilibre. Mais là, je dis vraiment, derrière l'arrogance, c'est ce que j'aimerais démontrer, ce que j'essaie déjà dans ces dernières fois, de démontrer comment l'arrogance est une puissance diabolique qui nous guette tous et que Dieu déteste. Tous ces cantiques de Marie, ces cantiques de Anne et de ça, c'est toujours, il a détrôné, il a renversé les arrogants, il a élevé le pauvre et l'humble. Et on a chanté ce matin des chants qui allaient bien avec ça. Je choisis d'être saint. Non, c'est pas de l'arrogance, bien sûr qu'on peut le chanter comme ça. Mais choisir d'être saint, choisir que Dieu nous change, c'est la plus belle des positions contraires à l'arrogance. C'est notre position juste en Christ. Et je le disais la deuxième fois, là, le contraire de l'arrogance, ce n'est pas qu'on devienne des mous. Vous savez, des fois, on dit, oh, celui-là, là, il est ci, il est ça, etc. C'est de l'arrogance, d'ailleurs, de juger l'autre qui est comme ça. Mais ce n'est pas le contraire qu'on soit tous des petits mous, des petits effacés, qu'on ne dise plus rien, alors c'est ça, c'est d'être humble, c'est des... Pas du tout, hein. Celui qui est en Christ, il doit être fort, il doit être musclé, on doit muscler nos muscles, notre intérieur spirituel, dans ce monde plus que jamais, dans cette épidémie plus que jamais. On doit être des battants, des guerriers amoureux. Il faut qu'on se lève, qu'on soit debout, mais sans arrogance. Il faut vraiment distinguer ça en nous. Donc je rappelle, ce n'est pas une prédication classique, essayez pas de tout comprendre, tout suivre, quand ça va vite d'un verset à l'autre, mais essayez de capter ce que l'Esprit peut vous dire à vous personnellement pour choisir personnellement de lutter avec vos forces, avec la force de Dieu, avec votre décision intérieure contre cet esprit méchant. Dans cette troisième partie, je vais lire pas mal de textes, d'extraits de textes, pour qu'on essaye de capter un petit peu, pour finir un petit peu les problèmes autour de l'arrogance. Dans le premier, on a vu le projet de Dieu, qu'on soit avec Anne, avec Marie, avec cette attitude de cœur. Dans la deuxième, on a vu qu'on pouvait se laisser emporter, atteindre, que même l'évêque, hein, j'ai cité plusieurs textes bibliques, peut être guetté par l'arrogance, donc nous tous, on est concernés. Et maintenant, on va terminer par le problème que pose l'arrogance, parce qu'elle peut faire peur, et elle peut nous atteindre, et elle est troublante dans notre foi chrétienne. Pourquoi ? Parce que l'arrogant réussit dans ce monde. Dans ce monde où c'est Satan qui règne, on peut être troublé parce que l'arrogant réussit. On a en tête tous ces... texte et psaume de David qui dit « Mais pourquoi dors-tu ? » Et puis je vois le méchant, il fleurit, etc., etc. Il y a plein de textes bibliques, plus qu'on croit dans la Bible, pour montrer comment l'arrogant peut nous troubler parce qu'il porte du fruit, parce qu'il semble réussir. Alors un premier texte, dans le psaume 73, il est dit ceci. Psaume 73, verset 3. « J'ai porté... » Et c'est le psalmiste qui dit ça, donc un homme de Dieu, un louangeur. Hein. « J'ai porté envie aux arrogants en voyant la prospérité des méchants. » J'ai porté envie aux arrogants, ce qui m'a donné envie finalement d'imiter, d'avoir envie, d'être jaloux de l'arrogant, c'est parce qu'il y a une prospérité des méchants, il y a une prospérité du mal aujourd'hui. Ça réussit dans les finances d'être arrogant. Ça réussit d'écraser. Il faut arrêter de croire comme naïf petit chrétien qu'on va dire à nos enfants, à nos ados, sois bien sage, tends l'autre joue, sois toujours honnête avec les impôts, puis tu réussiras en affaires. C'est pas vrai.
Qu'est-ce que je dis?
Monter, tricher, essayer d'avoir les impôts pour gagner. Écraser vos ouvriers quand vous serez patron pour gagner. Pardon? T'es pas d'accord, non? Comprenez ce que je veux dire? C'est un règne ou c'est la loi de la jungle, ou c'est Satan qui règne. Il faut arrêter de dire que Dieu règne. Oui, bien sûr qu'il règne, parce qu'il a tout en contrôle et il règne d'éternité en éternité, il est Dieu. Mais il a des temps, il a des moments, et on est dans un temps de grâce pour ceux qui se tournent vers lui, mais de terreur pour les autres. Parce que Satan est le prince de ce monde. Et il ne faut pas qu'on soit des naïfs. Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des... loup. Arrêtons d'être des petits chrétiens naïfs pour envoyer aux gens, il ne faut pas jouer au pistolet. Oui, joue au pistolet, vas-y, bats-toi. Vous voyez ce que je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'il ne faut pas être des petits naïfs, il faut être des soldats. La Bible nous enseigne à être des soldats, des laboureurs, des transpirateurs. Il faut arrêter d'enseigner un petit évangile facile comme ça, parce que les gens y vont, ils essayent. J'ai prié, Dieu pas m'a répondu, il n'existe pas. J'ai voulu être honnête dans les affaires. Combien, je vous racontais, je ne sais plus où c'était, si c'était ici ou à loin ou ailleurs, ou dans une veille, l'exemple de Philippe, aux équipiers à Fontainebleau, l'exemple de Philippe de Courroux, chanteur évangéliste numéro un aujourd'hui peut-être dans notre monde à nous. Il racontait combien il a, plus il servait le Seigneur, il a perdu de collaborateurs proches dont un s'est suicidé. Il a investi contre les prostituées. C'est un des rares qui s'est osé se battre, d'aller dans les pays de l'Est, de voir les prostituées, de monter un film là-dessus. Il a été poursuivi pour des droits d'auteur, pour quelques minutes de film qu'il a pris d'image d'un autre par des grandes sociétés de production. Il a perdu au tribunal, il a été ruiné plusieurs fois. Enfin, il dit, Seigneur, mais je te sers, je fais tout pour toi. Tu as dit qu'on aurait la bénédiction si on te suit. Et il a persévéré. Parce que Dieu veut nous muscler, selon lui, sans arrogance. Apocalypse 13, 4 à 9. Écoutez ce texte qui fait peur. Apocalypse 13, 4 à 9. C'est comme un flash, une image spirituelle de ce qui se passe dans les lieux célestes. Ils adorèrent, c'est un mot fort, hein, Dieu, non. Ils adorèrent les hommes, nous, les autres, pas nous. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Mais qui est semblable à cette bête? Qui peut la combattre ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes, des blasphèmes. Et lui, des blasphèmes, l'autorisation de blasphème, vous savez, c'est biblique. Hein, Dieu a donné l'autorité de blasphémer à la bête. Pourquoi on est étonné? Pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Quand c'est que vous entendez une prédication pour dire « Dieu veut donner de l'arrogance à la bête pour vous vaincre. Dieu fait ça. » Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, sur tout peuple, toute langue, toute nation pour faire la guerre aux saints et les vaincre. Et tous les habitants de la terre l'adorèrent, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Alors je sais bien, hein, je ne suis pas né de la dernière pluie en théologie, je sais bien que certains disent ça, c'est pour juste dans la grande tribulation, à un temps précis, et puis nous on sera enlevés, etc. etc. Bon. Après, je ne suis pas en train d'étudier l'Apocalypse et les temps. Mais ce que je dis juste, en tout cas, c'est que dans les lieux célestes, que ce soit maintenant ou un autre temps, il y a clairement des temps où il y a cette arrogance qui est un instrument permis, entre guillemets, par Dieu, et qui a vraiment cette volonté de pouvoir détruire, s'il est possible, les saints et de leur faire la guerre. C'est quelque chose qui peut faire peur, qui peut nous mettre en question. Le succès de l'arrogance, je disais. Il y a plusieurs textes bibliques encore qui en parlent, et j'aimerais en lire un dans Malachie. Malachie 3:15. Nous le constatons maintenant, dit le prophète Malachie, et c'est bien avant Jésus. Hein. Nous le constatons maintenant. Les gens heureux sont ceux qui sont fidèles au Seigneur. Non. Malachie dit, nous le constatons. Les gens heureux sont les arrogants. Les gens prospères, ce sont les malfaiteurs. Même s'ils provoquent Dieu, ils s'en tirent toujours. On est compte, ce texte. On prêche pas souvent sur un texte comme ça. Voilà la réalité, là, c'est plus l'Apocalypse. Malachie, bien avant Jésus, il fait un constat du monde spirituel et des enjeux. Nous le constatons maintenant, ceux qui sont heureux sont les arrogants. Les gens prospères sont des malfaiteurs, même quand ils provoquent Dieu, ils s'en tirent toujours. Vous voyez, on a un évangile déséquilibré, parce qu'on prend que les textes qui vont dans un autre sens, parce que les deux choses sont vraies. Confie-toi à l'Éternel, hein, combien de psaumes, et puis tu seras en prospérité, et puis il agira pour toi. C'est vrai tout ça. Mais on est dans une guerre spirituelle. Il y a la volonté de Dieu, et il y a la volonté du puissance du mal. Et Malachie doit constater que les arrogants, et ça, il faut qu'on le dise, il faut qu'on le comprenne avec nos ados, avec nos jeunes et chacun de nous dans nos vies, il faut comprendre que c'est normal, c'est pas étonnant que des malfaiteurs soient heureux, réussissent et portent du fruit. Ils s'en tirent toujours, dit Malachie. Et un peu plus loin, quelques versets plus loin, Malachie 3:19, « Je le déclare, moi le Seigneur de l'univers, le jour où j'interviendrai arrive, semblable à une fournaise ardente. Ce jour-là, les arrogants, les malfaiteurs disparaîtront comme une paille au feu, il n'en restera rien, absolument plus rien. » Donc ça, c'est le problème du « déjà » et « pas encore ». Et si vous enlevez un tout petit bout de ce verset, vous dites « Je déclare, moi le Seigneur, je suis contre les arrogants et je les détruis et ils disparaissent », eh bien, vous êtes dans cette dichotomie, dire « Mais pourquoi ça ne se passe pas aujourd'hui ?» Et là, il est bien dit « J'interviens, j'arrive, il y aura une fournaise ardente, il y aura un jugement dernier, il y aura une fin à ça. » Et ce jour-là, les arrogants et les malfaiteurs disparaîtront en un clin d'œil. Mais c'est ce jour-là, ce n'est pas aujourd'hui. Je ne suis pas dans ce temps-là aujourd'hui. Un jour, Dieu dira « Stop au mal et au malin. » D'autres textes encore prophétiques, c'est souvent, c'est intéressant je trouve, c'est que c'est beaucoup dans les textes des petits prophètes qu'on lit peu, hein, Malachie, Zacharie, etc. Dans l'Apocalypse et dans Daniel, qu'on trouve tous ces textes sur l'arrogance. Donc je trouve très intéressant, petite parenthèse pour dire, c'est comme si c'était un peu absent de l'Ancien Testament avant les prophètes, un peu des épîtres, on parle un petit peu, hein, il dit que l'évêque ne soit pas arrogant, mais c'est vraiment un cri de Dieu dans ces textes prophétiques de l'Apocalypse, de Daniel et d'autres qui parlent de cela. Daniel 8, 23 à 25. Il s'élèvera un roi impudent et artificieux. J'aime bien, ce n'est pas des mots qu'on utilise encore trop aujourd'hui. Hein. Il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. Quand il dit « détruira les puissants », on se dit « tiens, ça raconte les arrogants ». Non, pas du tout. Il détruira les puissants et le peuple des saints, donc ceux qui ont autorité et les saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et s'élèvera contre le chef des chefs. Mais un jour, il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Je reprends un petit peu ce texte parce qu'il me semble hyper important pour comprendre notre vie aujourd'hui autour de ce thème de l'arrogance. Ce roi, donc, impudent et artificieux, qui n'est pas l'antichrist à la fin des temps, qui est dans un temps de Daniel, hein, eh bien, il est dit à plusieurs reprises qu'il a réussi dans ses entreprises et qu'il fait du mal à ceux qui sont saints. Et à cause de la prospérité et du succès, à cause de son assurance, il fait mourir beaucoup d'hommes et de femmes. Et j'aimerais là faire une petite, légère poussée socialiste et syndicale pour dire, c'est vrai que derrière l'esclavage, derrière l'abus d'autorité sur les ouvriers, derrière l'exploitation du pauvre et tout ça, il y a exactement ça. Il fait mourir cet esprit-là, beaucoup de familles, qui n'arrive pas à nouer les deux bouts. Il arrive à faire souffrir beaucoup d'hommes et femmes qui galèrent dans ce monde. C'est ce même esprit qui est annoncé là, artificieux, impudent, qui fait peser vraiment sur le cœur de beaucoup d'hommes une souffrance. Il ne faut pas s'en étonner, il faut le comprendre dans la perspective du combat du mal et du bien. Et on pourrait annoncer la bonne nouvelle à ces pauvres. C'est pour ça que Jésus dit « Je suis venu pour les pauvres » en ce sens-là, aux pauvres littéral. Parce qu'il y a une bonne nouvelle. C'est qu'il faut comprendre que c'est comme ça maintenant. J'ai beau, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais ça ne passera pas. C'est sans le secours d'aucune main qu'un jour, par la grâce de Dieu, ces temps d'arrogance et de gloriole humaine, qu'on va y arriver par des nouvelles lois, par des nouveaux trucs, hein, par la révolte, par la lutte des classes, qu'on y arrivera. C'est sans issue, ça n'amène que de la souffrance supplémentaire. Mais C'est important de savoir que la bonne nouvelle, on peut dire à ces choses, c'est décrit, ce que tu vis est décrit dans les prophètes, et Dieu t'invite à lui confier, à lui remettre ta vie, et pas te confier dans l'homme, ou dans les syndicats, ou dans tel ou tel parti politique. Dans Daniel, toujours, un deuxième texte, Daniel 7, 19 à 22. Je désirais, dit Daniel, savoir la vérité sur ce quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer, des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qu'il restait et sur les 10 cornes qu'il avait sur la tête. Et sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne d'arrogance faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Tellement beau. Ce matin, quelqu'un a prié, je crois, là-dessus. Hein. Je ne sais pas si c'est ce que Sou a dit ou ce qu'Éric a repris. Mais voilà, c'est Christ a remporté la victoire. C'est fait, il a fait, le châtiment est tombé sur lui, et ce Christ, cet ancien des jours, un jour, il l'emportera effectivement. Il l'a déjà emporté, mais c'est seulement un jour que ce sera effectif, jusqu'au moment où, il faut qu'on comprenne ce jusqu'au moment. Ce n'est pas maintenant, mais ce n'est pas toujours que le mal va triompher. Cette arrogance qui fait la guerre aux hommes, aux créatures de Dieu, eh bien, on y est dedans. Mais un jour, l'ancien des jours, le Tout-Puissant Christ, mettra un terme à cela. Il y a une prière que j'aimerais vous lire contre l'arrogance, qui est très belle dans le psaume 31. Vous pouvez noter, ceux qui prennent des notes, c'est le psaume, vous suivez dans vos Bibles, psaume 31, versets 16 à 20. En cherchant, en faisant cette étude sur le thème de l'arrogance, j'ai essayé donc de mettre l'accent sur comprendre cet esprit qui agit derrière l'arrogance, qu'il est actif parmi nous, qu'il ne faut pas s'en étonner. Et puis là, il y a une prière pour que les fidèles de Dieu puissent en être délivrés. Donc, j'invite à prier chez vous cette prière du psaume 31, 16 à 20. Voilà ce que le psalmiste dit. « Fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque, mais que les méchants, eux, soient confondus. Qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre le juste, qui parlent avec arrogance. Oh, combien est grande ta bonté, celle que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. Tu les protèges sous l'abri de ta face, contre ceux qui te persécutent. Tu les protèges dans ta tente, contre ces langues arrogantes qui les attaquent. » Psaume 31, 16, 20. C'est tellement beau. Il dit pas du tout prier pour que l'arrogant meure. Prier pour qu'il n'y ait plus de lutte des classes. Prier pour qu'il n'y ait plus de mal. Prier pas pour que tout soit réglé. Parce que c'est une prière utopique, puisqu'il y aura un temps où Dieu mettra fin aux arrogances, au mal et à ces choses qui brisent l'homme. Mais aujourd'hui, le psalmiste l'avait compris prophétiquement, notre refuge face à l'arrogance, face à ce qui nous fait mal, face à ce qui nous blesse et qui peut arriver de manière très subtile, même entre nous, notre refuge, la solution, c'est juste de se placer en Dieu. Sauve-moi face à l'arrogance. Quand on se sent blessé, attaqué, ça peut arriver même dans l'église, ou dans sa famille. Il n'y a pas que les grandes arrogances des méchants loin. Mais tout ce que l'ennemi veut faire pour nous diviser, pour nous détruire, pour nous faire du mal, pour nous humilier, tout ce qui nous fait souffrir, eh bien, la solution, c'est que je ne peux pas demander à ce que ça disparaisse, mais je peux dire, sauve-moi éternel, cache-moi en toi. Il y a tellement ces beaux termes par rapport à l'arrogance, par rapport au dédain, par rapport à l'audace, par rapport à la méchanceté, la dureté. Eh bien, les autres termes, c'est cache-moi dans ta tente, que je ne sois pas confus, parce que plein d'autres textes bibliques disent que ça nous trouble. Le psalmiste dit, mais je suis confus, j'ai de la peine avec la réussite des méchants. J'ai de la peine, Seigneur. Tous les hommes le disent, pourquoi le mal? Pourquoi un viol si Dieu est bon? Pourquoi les guerres? Tout le temps, c'est ça. Quand on souffre, pourquoi je souffre? C'est une question fondamentale, chrétien, non chrétien. Bien, la réponse est, cache-moi dans ta tente. C'est ça le contraire de l'arrogance. Seigneur, je veux avoir tes pensées. Je veux avoir ton cœur. Je veux me placer en toi. C'est mon seul refuge contre ces difficultés et ces choses qui sont une occasion de souffrance. Je passe à un deuxième point après ce premier point qui était de bien comprendre comment on peut être troublé, comment on peut être atteint par cet esprit méchant. Et la solution, cette prière, se réfugier en Christ, dans sa tente, dans sa bienveillance. Deuxième point, c'est l'endurcissement peut me guetter avec mes dons, avec ce que j'ai de fort, ce que j'ai de bon en moi. Alors, je vais vous lire quelques versets qui nous parlent de ça. Le premier, c'est Daniel, encore Daniel, vous voyez, chapitre 5, versets 18 à 20. Daniel 5, 18 à 20. Au roi, c'est la réponse de Daniel au roi. Le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire, la magnificence. Vous voyez, à des non-chrétiens, à des rois terribles, mauvais, païens, hein, qui faisaient de l'occultisme, tout ça. Dieu a donné l'empire, l'autorité, la grandeur, la gloire, la magnificence. Il faut comprendre aussi ça. À cause de la grandeur qui lui avait été donnée, et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient là dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait qui il voulait, il abaissait ceux qu'il voulait. Mais, donc jusque-là ça va. Il est païen, il est dans l'occultisme, il n'est pas du peuple de Dieu, il a plein de qualités, ça marche et tout ça. Dieu valide ça. Mais, lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de toute sa gloire. Bien comprendre. Des hommes et des femmes peuvent avoir des grandes entreprises sans Dieu, prendre une grande autorité sans Dieu, peuvent avoir du succès. C'est OK avec Dieu. C'est même Dieu qui donne, il est dit. Ne soyons pas trop compte de tout ce que les païens ont. Dans le Nouveau Testament, il dit même la joie dans leur fête, des païens, c'est Dieu qui la donne encore. L'ennemi ne donne pas de la joie. C'est encore Dieu qui donne. Mais lorsque ton cœur s'élève et que ton esprit s'endurcit, là, il y a la chute. Et mes amis, ça peut tous nous guetter. C'est là le voir des grands serviteurs de Dieu. Voir, c'est pour ça que dans les Épîtres, il dit même que l'évêque, que l'ancien, fasse gaffe à ça. Hein. C'est que même nos dons, même notre richesse, là où on peut être fort, peut être un piège si nous sommes dans l'endurcissement et que notre cœur s'élève. Donc, veillons vraiment dans nos dons aussi, dans nos forces, qu'on ne puisse pas se retenir et avoir peur de les exercer, et en même temps d'être encouragé à le faire vraiment dans l'humilité, dans la dépendance d'avec Dieu, pas d'endurcissement. C'est tellement triste de voir des personnes âgées, où les caractères ressortent, qui vieillissent bien avec une ouverture, avec le fait de pouvoir se laisser aller dans les mains du Seigneur, et puis d'accepter, d'être reconnaissant, et d'autres personnes qui se durcissent à la fin de leur temps. Et ça nous arrive aussi de notre vivant, nous, sur, pas tout le temps, ça se voit moins, on arrive mieux à cacher, mais que sur tel point ou tel autre point, on ait une rigidité. Combien c'est triste, ça peut être aussi l'esprit non enseignable. Hein. Ça veut dire que ce point, on sait, c'est comme ça, on ne veut plus bouger. Et même si on le cache bien, même si ce n'est pas dans tous les domaines, ça peut tous nous guetter. Veillons, veillons à cet esprit d'arrogance qui s'insinue dans nos forces, dans nos dons, qu'on n'est plus capable d'une remise en question. Qu'on croit que c'est comme ça, on le dit, puis on le dit méchamment, puis on blesse les autres, et puis là, ça c'est de l'esprit d'arrogance. Qu'on ait raison ou tort, et souvent, on a tort, et c'est le cordonnier qui est au-dessus de sa chaussure, hein, on intervient sur des points. On a des gens, j'ai vu ça sur Internet, ah oui, puis c'est la vérité, oui. Et puis ils combattent, et puis ils croient ça. Et on parlait hier soir, hein, au Zoom aussi, on était d'accord ensemble à la fin, à dire, mais qu'est-ce que c'est difficile de discerner avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. Eh bien, ça, c'est important qu'on ait cette prière. Seigneur, fais que mon cœur reste tendre, reste souple aux frères, aux sœurs, aux autorités, de discerner aussi ensemble. Pas dire tout seul, j'ai le discernement. Non, si tu as le discernement, c'est que tu discernes avec les autres. C'est tout autre chose. Dire, moi, j'ai le discernement. Non, je discerne avec les autres. On a besoin les uns des autres. Ce n'est pas facile. Et c'est un travail à faire et à vivre. Les proverbes aussi nous aident là-dedans. Proverbe 14, 16. Proverbe 14, 16. Le sage, je l'avais déjà cité une fois, la première ou la deuxième fois, mais c'est tellement important, Proverbe 14, 16. Le sage a de la retenue. L'insensé est plein de sécurité. Vous voyez, nous, on dirait des fois le contraire. Hein. Si je suis en Dieu, je suis plein de sécurité. Et puis, les autres, les païens, tout ça, ben, ils ne savent pas. Nous, on sait, on est en Christ. Non. Le sage, celui qui est en Christ, il a de la retenue. Il ne sait pas. Il n'est pas sûr. Il est humble. Il tâtonne. Il écoute les autres. Il fait son avis avec les autres. L'insensé, il est plein de sécurité. Lui, il sait qu'il ne faut pas faire comme ça. Non. Je suis sage, j'écoute les autres. Je travaille avec les autres. Je trouve un chemin. Et j'accepte d'être enseigné. Prions donc que ce risque de trouble, d'une part, face à l'arrogance du monde, ne trouble pas notre foi, qu'on puisse rester caché en Dieu et que l'endurcissement ne nous atteigne pas. Un troisième point que j'aimerais partager avec vous, c'est donc cet antidote d'humilité, prendre quelques temps avec l'humilité. Je vous invite à relire, on ne va pas le dire maintenant, mais le psaume 131, c'est un des psaumes les plus courts. Je l'ai travaillé avec les jeunes leaders, ils l'ont bien aimé, ils l'ont répété. Je vous invite à garder ce psaume 131, qui peut être mal compris, qui pourrait être compris dans un mauvais sens, dire qu'il ne faut rien faire, il faut rester petit, il ne faut pas avoir d'ambition. Ce n'est pas du tout ça. Le psaume 131 dit, « Seigneur, je ne veux pas m'occuper de choses trop relevées, trop compliquées, hors d'atteinte. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Israël, aie confiance en Dieu. » Tellement beau. Ce n'est pas dit qu'on ne doit rien faire. Dieu nous invite à être fort en lui, à remporter des victoires pour lui, à être battant et tout ça. Mais l'attitude, et David, qui a écrit la plupart des psaumes, est un roi puissant avec des perspectives, des armées, des richesses, des belles constructions. Et aucun problème d'avoir de l'ambition, il faut en avoir, comme chrétien pour Dieu et en Dieu. Mais il a pu constater que cette attitude de cœur devait être « je ne m'occupe pas de choses au-dessus de ma chaussure, de mon domaine de compétence, mon autorité. » Ne priez pas pour qu'il n'y ait plus de guerre dans le monde. Ne priez pas pour qu'il n'y ait plus de faim dans le monde. Ça ne sert à rien. Prions dans notre domaine et notre sphère d'autorité, où on reçoit de Dieu et où on peut concrètement, nous aussi, faire un pas dans ce sens-là concret, qui est un pas aussi de lien avec l'exaucement de notre prière. Seigneur, j'ai un voisin qui a des difficultés, je ne sais pas comment m'y prendre. Je te prie tous les jours pour ce voisin. Donne-moi une opportunité, une occasion de rencontre, quelque chose pour lui apporter. Ça, c'est important. Ça, c'est notre sphère d'autorité. Donc, ce psaume 131, je vous invite vraiment à méditer aussi un remède à l'arrogance. Dans ma sphère d'autorité, dans mon domaine, et loin de ces choses, loin de ces grandes discussions où je ne peux rien faire, mais qu'on aime disserter. Alors, je ne dis pas, on a le droit au café de refaire le monde, on a le droit de changer les trucs, c'est sympathique, c'est bien. Mais dans notre attitude de ministère spirituel et notre place de chrétien, soyons dans notre sphère d'autorité, là où tu peux agir, là où tu es responsable, et critique pas les autres. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Trouver le repos. Beaucoup d'hommes et de femmes et de chrétiens ne trouvent pas de repos parce qu'on s'occupe, parce que je m'occupe de choses. Dieu ne nous demande pas de s'en occuper. Et je porte le monde, et je porte plein de choses. Donc soyons dans ce psaume 131. Je donne trois petits exemples, par exemple, très concrets, qui montrent ce contraire de cet esprit d'arrogance, d'humilité, que je vous invite à avoir et à grandir. Donc là, je vais être très, très concret. Par exemple, dans le Zoom d'apôtres et de prophètes de France, qui a eu lieu dernièrement, auquel Urbain et Nicole, merci, a participé, j'ai été impressionné de voir tous ces grands hommes de Dieu, hein, comme, qui ont eu des œuvres derrière eux, qui ont créé des choses, etc., à Paris, en Suisse, tout le domaine d'Oron, de la guérison, tout le domaine avec Carlos Payen, d'unité des chrétiens, de louange, etc., toutes ces actions-là. Quand Franck Jeanneret, pour citer lui ou d'autres, prenait la parole et puis faisait une petite animation d'un atelier ou d'une séquence, un truc, je voyais tous ces grands hommes de Dieu lui dire « Merci Franck, c'est bien Franck, bravo Franck, etc., on a aimé ce que tu as dit ». Je dis, mais attends, mais c'est incroyable, c'est beau ça. Ce n'est pas des gamins qui ont besoin d'être encouragés, qu'on le fasse pour quelqu'un. La première fois que Esther prêchera, on lui dira, c'est bien, vas-y, on t'encourage, vas-y, c'est bien, on tape dans le dos. C'était comme si c'était l'inverse. On a de la peine d'être reconnaissant dans un culte comme ça. Pour combien de fois vous avez remercié le prédicateur? Je ne dis pas ça pour moi ce matin, je dis pour les autres, hein, tous les autres dimanches. Combien de fois on a remercié, combien de fois on a encouragé, qu'on a écrit un petit mot au téléphone, dit, j'ai aimé ce que tu as fait, la louange, j'ai aimé, etc. Et dans toutes nos vies. Ben, on le fait peu, presque pas. Et plus on grandit en autorité et que ces gens en auraient moins besoin, c'était impressionnant de voir comme des enfants tous ces grands ministères dire bravo, se féliciter, se congratuler. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que c'est dur, que c'est difficile, que même quand on croit que c'est un grand ministère, il a peur de se tromper, surtout devant ses collègues et tout ça, il se dit je ne sais pas où j'en suis, etc. Donc soyons reconnaissants, attendons pas d'être un grand ministère, mais encourageons-nous pour ça. Quelqu'un a pris vos enfants pour l'école du dimanche, dites merci. Régulièrement, tout le temps que ça devient une habitude, pas une fois je l'ai fait, c'est bon, donc tout le temps que ça devient une culture. Ça, c'est lutter contre l'arrogance. J'ai besoin des autres, je suis reconnaissant. Pas de critique, mais du constructif. Deuxième exemple, quand j'envoie ma lettre de nouvelles à 1000 ou 2000 contacts, c'est qui me répond un petit mot d'encouragement ? C'est pas les gens qui ont le temps, c'est un évêque, c'est un autre grand ministère, etc. Ils prennent le temps parce qu'ils savent que c'est important. Apprenons. C'est aucune critique, c'est ça. C'est juste qu'on comprenne les choses très concrètes. Je vais vous donner quelques exemples. C'est là qu'on voit si on est arrogant ou si on est humble, si on est prêt à encourager, si on est prêt à relever. Troisième et dernier exemple. À Montpont l'autre jour, au culte, c'était tellement drôle. Il y avait peut-être. Océane qui est là. Il y avait peut-être 3-4 paroissiens. On avait le pasteur François Caudouel qui arrivait en Jaguar avec un chauffeur. On a eu comme louangeur l'organiste de la cathédrale de Nancy avec un prof du conservatoire de Lens. On a eu un pasteur des assemblées de Thiers qui était là dans les rangs de simples auditeurs. Qu'est-ce que j'oublie encore, Océane ? Un pasteur d'une église de Châlons qui faisait la Sainte-Seine. Un pasteur de l'église de Lens, des responsables des anciens qui a fait la louange de la présidente. Enfin, voilà. Il y avait 10-15 gens de bon niveau de rien, et tous humbles à servir cette petite église pour 3 personnes qui étaient là avec des gens qui chantaient comme ils chantaient, etc. Et qu'est-ce qu'il a fait cet organisme de Nancy ? Il était content de servir là. Il y avait un vieux, ça aussi c'est toujours ce qui m'a frappé, avec Sylvain Frémont par exemple. Il y a des gens, là c'est un assez bon sainteté, hein, mais des fois il y a un sainteté moyen dans les églises, tout ça. Puis une fois à Montigny, on avait un sainteté vraiment moyen, petit. Sylvain Frémont, il a joué dessus très bien, sans problème. L'autre jour, on avait les jeunes leaders, on avait Adriel, qui est au Conservatoire Royal là, de musique, tout ça, qui est un pianiste super. Il y avait un tout petit jouet, c'était même moins que le piano de truc, c'était mon petit jouet de mode, tout petit comme ça. Il a connu notre louange. Et puis, tu as des gens qui ont 15 fois moins de compétences qui se permettent de dire la louange, c'est pas bien, oh, je peux pas faire ci, ou on m'a pas convaincu. Mais l'humilité, les frères. On apprend à servir, à être joyeux, à être reconnaissant. Voilà quelques exemples concrets où on peut s'exercer. Je n'arrive à ma conclusion. La prochaine fois, Stéphane est où ? Tu peux prendre une petite flûte plastique, s'il te plaît, qu'on voit ton humilité. Un responsable politique français, je fais ma petite crise suisse contre les politiques français. Un responsable politique français dernièrement critiquait la politique d'un autre de ses collègues en disant ceci à la radio. Ton programme est comme un couteau sans manche qui n'a pas de lame. Ton programme est comme un couteau sans manche et qui n'a pas de lame. Mais quelle bêtise, quelle méchanceté, quelle arrogance. On ne peut pas s'encourager un peu. Alors heureusement, dans l'Église, on ne dit jamais ça, on est très... Je vois que Jacques y approuve. Jamais d'invective, jamais de mépris et tout ça. Nous, en tout cas, pas dans les autres églises, Jacques, mais pas chez nous. Voilà. Donc, face à cette parole, ton programme est comme un couteau sans manche qui n'a pas de lame, ça m'a fait penser 2 choses. La première chose, ça m'a fait dire quelle arrogance, quelle méchanceté. Évitons ce genre de phrases, ce genre de critiques sur les profs de nos enfants, sur... tous les gens qu'on a autour de nous, sur le gouvernement, sur notre maire, etc. Soyons prudents. Puis la deuxième chose qui m'a inspiré cette phrase, c'est de dire, mais je me sens un peu comme ça. Peut-être que cette phrase, finalement, n'est pas si fausse. Je me sens des fois un petit peu dans la coordination du réseau, et même avec le conseil du réseau avec d'autres, ou pour la gestion du Covid, je me sens un petit peu comme ça, comme avec une vision sans manche et qui n'a pas de lame. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est avoir une sainte humilité, la grâce de Dieu dont on dépend. Je ne sais pas, je n'ai pas toutes les réponses, je tâtonne et j'ai besoin de mes frères et sœurs avec moi. 2 Corinthiens 1, 4, ceux qui ont des Bibles, je vous invite à l'ouvrir, quand même, lire un texte, il me semble très important. Je vous assure que je ne vois pas du tout l'horloge parce que Edmé, il la cache bien, donc c'est bien. 2 Corinthiens. Reste bien devant, mais il ne bouge pas trop, parce qu'après j'aperçois. Non, mais j'arrive à la fin. 2 Corinthiens 1, 4. 2 Corinthiens 1, 4. On va lire le verset 3 déjà. « Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent en affliction, etc. » Il y a là un principe, une loi spirituelle qu'il nous faut comprendre, au même titre que si je lâche un objet, il y a une loi qui fait... La loi de l'attractivité terrestre, enfin, c'est à Sylvain d'expliquer, mais c'est ça, c'est la loi de l'attraction terrestre. Qui... Non ? Oui, c'est ça. C'est bien ça ? Tu as l'air de douter, non ? Tu me regardes avec d'autres regards. Enfin, tu as peur de ce que je vais dire après, ou bien ? Oui, c'est ça. Il n'a pas confiance. Il y a une loi spirituelle là-dedans. Il dit quoi, Paul, aux Corinthiens ? Il leur dit... Vous devez comprendre qu'il vous faut comprendre qu'il faut comprendre que si vous voulez consoler les autres, c'est uniquement par la consolation que vous-même vous avez reçue, vous pourrez consoler les autres. Et ça, vous pouvez l'appliquer à toutes les autres choses que la consolation. La bénédiction, l'encouragement, le combat, la détermination. C'est parce que nous-mêmes, nous sommes touchés qu'on peut comprendre, toucher d'autres. Et pour ça, on a besoin d'expérimenter. On a besoin d'expérimenter des choses. On a besoin de dire, Seigneur, touche-moi, visite-moi, que je pleure plus, que je ris plus, que je sois plus aplati sur le sol des moments, que je sois plus dans les temps de me balader dans les bois. Ça dépend de nos caractères. Il ne faut pas surtout imiter. Quand on imite les autres, c'est déjà à côté. Mais que je puisse vivre quelque chose avec toi. Fais-moi vivre des choses, que je puisse le partager, que je puisse l'encourager à d'autres. Donne-moi, Seigneur, le besoin d'être sauvé, que je sache ma misère, pas celle des autres, moi je suis sauvé, c'est bon. Non, Seigneur, je ne sais pas, je ne comprends pas encore, aide-moi, viens travailler en moi. Et dans ce besoin, je vais dire, mais mon voisin, il a encore plus besoin que moi, alors je vais essayer de lui communiquer quelque chose. Que nous soyons touchés dans nos tripes et dans nos émotions. Ecclésiaste 8.1 dit ceci, pour ceux qui notent, je redis, Ecclésiaste 8.1. Qui est comme le sage et qui sait l'explication des choses? La sagesse d'un homme illumine son visage et l'arrogance de son visage en est changée. Ah, enfin, un texte qui nous dit clairement un remède à l'arrogance. Il y a plein de choses que je vous ai dit, hein, comme remède à l'arrogance. Je dis oui, on peut prendre ce psaume, cette prière, ça, c'est bien. Tout ça, je pense que ce que j'ai dit, c'est juste. Mais il n'y avait pas un texte biblique, ceux qui aiment un texte biblique, s'il y a une chose à retenir sur l'arrogance, c'est qu'on arrive à la conclusion, c'est Ecclésiaste 8.1. Plein de choses dans cette richesse. Qui est comme le sage et qui a l'explication des choses? Point d'interrogation du sage. Hein? Qu'est-ce qu'on peut dire finalement? Qui a une explication? On peut avancer. Qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, la sagesse d'un homme illumine son visage. La sagesse, c'est bien sûr Dieu lui-même, le Christ lui-même, l'Esprit lui-même. C'est la sagesse personnifiée avec un grand S majuscule dans les Proverbes et l'Ecclésiaste. Hein. Eh bien, ça illumine son visage, alors que l'arrogance de son visage marque son visage. Elle doit être changée. Ça veut dire que physiquement, il y a une conséquence à nos attitudes de cœur. C'est ce que la médecine de la personne aujourd'hui, c'est toute la psychologie, la psychanalyse et tout ça, qui est très tardive, hein, du 19e ou du 20e siècle, a découvert combien notre caractère affecte notre physique. Eh bien, dans l'Ecclésiaste, dans les Proverbes, 1000 ans avant Jésus, il y a 3000 ans, il y avait déjà exactement ça. Il dit exactement, tu as des choses qui peuvent illuminer ton visage et il y a des choses qui peuvent marquer ton visage et ta vie et ton corps physique. Et là, le Seigneur nous invite à ce que notre arrogance soit changée. Tout ce qui dans notre corps est marqué, nous pèse, est difficile, eh bien, il nous propose que la sagesse, c'est-à-dire Christ en nous, illumine notre visage. On a chanté hein, ça ce matin, hein, le miroir, que je contemple ta beauté, que je contemple ta majesté, que je me cache dans ta tente, et je suis transformé, je suis changé par la contemplation. Et on n'a pas d'icône ici, heureusement ou malheureusement, ça dépend des clans, mais en tout cas, c'est ça la démarche devant une icône, ce n'est pas d'adorer une image, ce n'est pas une statue, etc. C'est d'être transformé par une image, et bien sûr qu'on peut se l'imaginer en mental, Christ, mais c'est difficile, mais c'est comme ça, contempler Christ, comment vous voulez le contempler, celui contempler Christ, fermez les yeux, vous faites quoi, ça c'est biblique, contempler Christ, regardez la croix, oui, tout à fait, une croix, peu. Contempler Christ, comment? Ben, certains, ils ont essayé de trouver des moyens, si vous en trouvez d'autres, et mieux, sans image, sans rien du tout, tant mieux, mais contempler Christ, cette image qui vous transforme, on peut le contempler dans sa parole, on peut le contempler dans ses actes, il y a plein de manières, hein. Mais contempler Christ pour nous transformer, pour que notre arrogance qui est marquée sur nous soit changée et que nous soyons illuminés. Je termine, cette fois vraiment, par un dernier verset biblique, Malachie 4, 1 à 2. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, ceux qui les ont, parce que c'est bien de pouvoir lire ce dernier texte qui clôture ces trois messages sur Malachie 4, 1 à 2. Malachie, donc, c'est le dernier livre de la Bible. C'est assez facile à trouver, parce que dans ces petits prophètes, on s'y perd des fois. Donc, c'est le dernier, juste avant le Nouveau Testament, Malachie 4, 1 à 2. Malachie 4. Alors, selon les traductions de Bible, il faut que je dise, il n'y a pas toujours la même pagination et chapitre numéroté que ça. Pour certains, c'est chapitre 3, 19 à 20. Donc, chapitre 3, 19 à 20 pour certaines traductions. Si vous avez une autre, si vous n'avez pas le chapitre 4, et pour ceux qui ont le chapitre 7, c'est versets 1 à 2. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les humains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Donc ça, c'est ce qu'on a lu. Hein. Un jour, ça viendra. Pour le moment, ce n'est pas ça. Mais pour vous, verset 2, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. La guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme des veaux d'une étable. Et un petit peu plus loin, verset 4, ou verset 22 dans ceux qui ont l'autre pagination, souvenez-vous cependant de la loi de Moïse, c'est-à-dire qu'il y a des commandements et qu'il faut se souvenir des principes de Dieu. Mais autrement, ce qu'il est dit, c'est que nous pouvons nous réjouir de cette espérance folle de bondir comme des veaux qui sortent d'une étable, hein, vous savez, qui ont été enfermés longtemps et qui gambadent et qui sautent comme ça. Il y a la fraîcheur, donc le contraire de l'arrogance, je redis pour terminer, c'est pas d'être éteint. Ce n'est pas d'être éteint, c'est d'être dans la joie, c'est d'être dans la fraîcheur, c'est d'être dans une spontanéité de vie. Et la guérison est sous ce soleil levant qui vient. Le soleil levant, ce n'est pas tac, ce n'est pas il y a la nuit et puis vous avez un spot qui s'allume. Soleil levant, ça vient progressivement. Et ça vient depuis la croix. Depuis 2000 ans, le jour de la résurrection, ça a commencé ce soleil levant qui vient. Il ne vient pas pour tout le monde, il vient déjà dans ce temps-là pour nos vies. Pour son peuple, pour l'Église, le soleil levant vient et nous pouvons commencer à gambader comme des veaux. C'est ça notre destinée, c'est ça notre vocation. Dans ce monde d'arrogance, ce n'est pas de condamner, c'est normal, c'est comme ça, c'est un temps comme ça. On peut faire des choses contre, on peut être une lumière, tout ça. Mais notre vocation profonde, c'est de nous réfugier en Christ, d'attendre ce jour et de bondir déjà en espérance et même concrètement, parce que la guérison vient sous ses rayons. Et je vais me réfugier dans cette guérison qui vient petit à petit. C'est pour ça que je vais être reconnaissant. C'est pour ça que les petits gestes que je vais mettre dans ma vie, parce que je commence à gambader malgré ce monde d'arrogance, ces deux choses qui sont là, c'est une lettre de reconnaissance, c'est un téléphone d'encouragement, c'est un petit mot. C'est plus difficile avec le Covid de se témoigner des papouilles ou des bonnes poignées de main ou des bons regards, mais il y a d'autres manières de le faire. Et je vous invite vraiment, pour terminer ce temps sur l'arrogance, à dire, il y a ce monde arrogant, ok, il peut m'atteindre, il peut me troubler, mais il est là. Mais moi, je veux me blottir dans l'Éternel, je veux accueillir son caractère et je veux me préparer à mon appel de bondir, d'être dans la joie et la fraîcheur. Amen. On va prier. Je vous invite à vous lever, ceux qui veulent, et on va demander au Seigneur de le faire dans nos vies. Prendre ce petit temps de silence devant le Seigneur où chacun de nous peut dire, Seigneur, donne-moi ce caractère de joie, de fraîcheur, d'encouragement, plutôt que d'arrogance, de critique, d'esprit non enseignable, mais qu'on puisse être souple dans sa main. Seigneur, on voit combien c'est une question de caractère pour les arrogants de chuter, de s'endurcir, de penser que c'est par leur force, de mépriser Dieu, de mépriser l'autorité, Seigneur, et pour nous aussi, que c'est une question de caractère, d'être caché en toi, de grandir en toi, d'apprendre de toi, d'être transformé par toi. Viens, Seigneur, par ton Esprit Saint, nous transformer. Viens nous donner, pas d'envisager des grandes choses, mais de petites choses concrètes, à notre portée, là où tu nous appelles, pour être ces lumières dans la joie. Viens, Seigneur, faire de nous ces témoins vivants autour de nous, dans notre entourage, dans notre église, dans notre famille, qui met cette différence avec l'esprit d'arrogance. Seigneur, merci de nous façonner. Donne-nous d'être aguerris, déterminés, fortifiés en toi, pas endurcis, mais fortifiés en toi, par Jésus-Christ. Amen.